This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Good morning. How are you today?
Spotzel, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 66. Ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je discute avec Fred Machabert, homme aux multiples casquettes comme vous allez l'entendre. Fred est également un jeune converti à l'ultra-distance avec plusieurs jolis challenges à son actif et encore plein d'idées. Sans plus attendre donc, Fred Machabert. Salut Fred.
Hello, tu m'entends bien ?
Ouais. Bon, comment vas-tu ?
Ça va bien. Enfin, un peu... Je sentais pas les pédales la semaine d'après, là je suis un peu petit coup de mou, mais rien d'anormal.
J'ai juste eu le début de ta phrase qui a été un petit peu mangé, donc vu la fin de ta phrase, ça veut dire j'en déduis que t'as un petit coup de mou et que tu t'es un peu cuit aujourd'hui.
Ouais, la semaine d'après, j'ai été roulé deux fois avec des sensations. Toute proportion gardée pour mon niveau, hein, des sensations exceptionnelles. Là, c'est un peu plus dur, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Donc voilà.
Quand on le sait, il n'y a aucun problème. Ça passe.
C'est ça.
Ouais. J'ai vu que ce matin, t'étais dans l'eau ce matin.
Ouais, j'ai été faire 2 heures de paddle.
C'est excellent pour le gainage. C'est très bien.
Et même pendant le confinement, je m'étais dit, c'était un peu comme les résolutions de Noël, quoi. Ouais, je vais faire du gainage, je vais faire plein de trucs, et ça me fait tellement chier le gainage que je trouve ça tellement pas intéressant, et donc du coup, effectivement, c'est au-delà de la balade et du côté cool, c'est une manière ludique de faire du gainage, effectivement.
Ouais. C'est vrai que le gainage, c'est pas marrant, mais Les bénéfices, quand on les ressent, quand on a l'occasion de les toucher du bout du doigt, une fois de temps en temps, on se dit, ouais, c'est quand même super utile.
Ah, mais je ne doute absolument pas de l'intérêt du gainage, hein. Ça, c'est même pas le débat.
Oui, bien sûr. Mais c'est que c'est intangible. Tu vois, et sur la route, eh ben, on le sent pas vraiment le bienfait, en fait. C'est ça qui est un petit peu difficile pour toi, je pense. C'est qu'on le ressent pas.
J'ai fait 2 heures de balade ce matin sur l'eau. C'est la première fois que je faisais aussi long. Et puis, j'aurais pu faire 3 heures ou 4 heures, je pense même. C'était pas de souci, j'avais un peu mal au bras. Mais ouais, je suis ailleurs depuis quelques mois. Et il y a tellement à faire à tous les niveaux que ça vaut le coup.
Que tu n'arrives pas à tout faire. Bah justement, parce que là, on a attaqué un petit peu sur les chapeaux de roue. Qui es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Et d'où viens-tu?
Alors, qui es-tu? Frédéric Machabert, 39 ans, dans la vie professionnelle, plusieurs vies. D'abord journaliste en presse quotidienne régionale. Ensuite, j'ai bifurqué par des concours de circonstances et des rencontres vers la presse spécialisée dans le VTT entre 2005 et 2012, ce qui m'a permis de couvrir entre 2004 et 2015 même tous les championnats du monde de VTT, une bonne dizaine d'années la Coupe du Monde, 2 fois les Jeux Olympiques, à chaque fois que pour le VTT. Donc j'ai couvert 2 Jeux Olympiques avec 2 titres olympiques plus une médaille d'argent de Jean-Christophe Perrault, donc c'était forcément des bons souvenirs. Et en 2012, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question. Et j'ai bifurqué comme consultant en communication, ce que je fais encore aujourd'hui. Donc j'ai une activité qui est assez large, je travaille tout seul, hein, je suis de la relation presse, de la gestion presse sur des gros événements type Coupe du Monde de VTT OG, Coupe du Monde de biathlon, Championnat du Monde de VTT, ou sur des Coupes du Monde de ski alpin. Je fais un peu de photos, mais j'ai trop de respect pour le travail de photographe, et je connais tellement de photographes talentueux que je ne me qualifierais pas comme photographe. Mais
Mais t'as un appareil photo. Voilà.
J'ai un appareil photo et je fais des photos pas floues. Pas la prétention de me prétendre photographe, juste la prétention de pouvoir faire du contenu de qualité pour les réseaux sociaux. Et donc effectivement, il y a toute cette partie réseaux sociaux, community management, que ce soit pour des athlètes, pour une équipe, parce que j'ai remis un pied dans le VTT depuis 2 ans avec une équipe professionnelle de VTT. Donc je bosse aussi avec une équipe professionnelle pour les relations presse sur la route. Ça me prend pas mal de temps. Je suis 2020, mis à part, parce que c'est un peu particulier, je suis dehors 120 à 130 jours dans l'année. Et quand j'ai un peu de temps, je fais du vélo. Et j'ai goûté à la longue distance il y a 3 ans pour l'envie de faire une longue balade et faire un pari avec un pote. Et depuis chaque année, ça, on remet ça avec d'autres idées, d'autres envies. Forcément, les kilomètres s'allongent et c'est des belles expériences.
Alors, on va revenir un petit peu sur ton côté community manager. Tu bosses pour quels athlètes, pour quelles équipes? Soyons précis un petit peu quand même jusqu'au bout.
Donc je travaille avec l'équipe KMC Orbea, qui est une équipe qui est la meilleure équipe française en VTT cross-country, qui est top 5 mondial au classement UCI. C'est une équipe qui a plus de 20 ans d'histoire, qui a tout gagné, qui a gagné la Coupe du Monde, le classement général de la Coupe du Monde, qui a gagné les Jeux Olympiques et les Jeux Libressés, qui a gagné des titres en espoir, qui est toujours dirigé par la même personne depuis 22 ans. Donc c'est une structure à la fois pro et familiale. Et le VTT, c'est encore aujourd'hui, c'est le monde dans lequel je viens, donc je me sens encore à la maison. Donc c'est des petites structures par rapport à la route. Il faut savoir que c'est des budgets qui sont 10 fois inférieurs, sachant qu'une équipe route, c'est 25 à 30 coureurs. Dans l'équipe KMC Orbea, on a 5 athlètes. C'est le format typique du VTT. En parallèle, je travaille aussi avec Pierre Latour et Alexis Goujard sur la gestion des réseaux sociaux. J'ai aussi une collaboration avec Jordan Sarrou, qui est un des athlètes présélectionnés pour les Jeux Olympiques, qui a déjà gagné la Coupe du Monde Espoir, où Jordan, c'est plus du contenu avec lui, je rédige des newsletters. Et quand même, ma grosse activité, c'est avec l'équipage des 2R La Mondiale, où j'ai un rôle d'attaché de presse en duo avec mon acolyte qui est mon client. C'est lui qui me fait travailler sur AG2R, qui est Yves Perret. Et je suis dehors avec AG2R une centaine de jours dans l'année. C'est 2 grands tours chaque année. C'est toute la période des classiques, notamment les Flandriennes depuis 3 ans. Encore une fois, cette année, tout va être très, très particulier. Mais voilà, en gros, mon planning avec AG2R. Voilà ce qui m'occupe à 90% du temps, on va dire.
Quand tu dis gestion, par exemple, d'Alexis Goujard ou quel autre athlète, tu m'as dit
Pierre Latour, qui était meilleur jeune du Tour de France il y a 2 ans.
Ben oui, et qui a joué de malchance l'année dernière avec de multiples fractures, je crois, c'est ça?
Qui s'est fracassé aux Émirats arabes l'avant-veille du Tour des Émirats.
Et voilà.
Et ça lui a pris, ça lui a bouffé la moitié de la saison.
Ça veut dire quoi pour eux, gérer leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suppose? Ça veut dire que c'est toi qui récupères le contenu auprès d'agences de presse diverses et qui rédige les posts, je suppose, c'est ça?
C'est des 2 athlètes déjà avec qui je m'entendais bien. J'ai pas envie de travailler avec 15 athlètes. Donc déjà, ça passait par des atomes crochus avant toute chose. Ouais. Et ces deux profils assez similaires, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt spectateurs des réseaux sociaux, pas très actifs, mais avec le sentiment que c'était important pour leur carrière et pour leur après-carrière d'avoir une communauté qui les suit, qui grandit. Ouais. Et mon rôle, c'est je suis pas un fanatique de poster à tout prix. On prend la parole quand il y a besoin de prendre la parole. Donc mon rôle, c'est de les alerter en disant bah là, il y a telle actu, ça serait bien qu'on prenne la parole. Et effectivement, c'est aussi de leur simplifier la vie. On a souvent du contenu via une agence photo ou des gens qui sont sur le terrain, donc c'est à moi de récupérer le contenu. Connaissant les deux personnalités, j'ai écrit à leur place. Tout ça est validé par eux derrière pour que ça colle à leur personnalité, mais le but est de rester naturel et comme ils ont l'habitude d'être. On n'est pas là pour sur les réseaux, ils sont pas là pour jouer un jeu.
Oui, ils sont pas là pour jouer un rôle et prétendre.
Jouer un rôle, pardon. Ouais.
Est-ce qu'il leur arrive de prendre la main sur leur compte, tu vois, par exemple à l'occasion. Peut-être pas à l'occasion de grands tours, mais sur certains moments de la saison, pour justement revenir à quelque chose d'extrêmement authentique, vraiment en rapport avec eux, ou ils sont totalement allergiques au réseau.
Ils sont complètement autonomes sur leur story, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça peut arriver des fois où, quand ils ont un doute, ils m'envoient la photo, est-ce que ça passe en story, on en parle.
Qu'est-ce qui passe pas, par exemple, en story?
Ouais, j'ai pas d'exemple précis, mais par exemple, pas plus tard qu'hier, Alexis Goujard m'a envoyé une photo sympa, parce qu'il est actuellement en stage avec l'équipe, une photo sympa, il est en stage à Vaujany. Ouais. Et en voyant la photo, je lui ai trouvé la légende et ça lui allait bien, et il a posté la légende avec pour la story. Mais j'essaye de faire comprendre aux athlètes, et généralement, ça se passe plutôt bien. C'est pas de la schizophrénie, mais leur faire comprendre qu'ils ont deux vies, en fait. Ils ont une vie perso et ils ont une vie professionnelle. Et dans la mesure du possible, c'est quand même pas mal d'éviter de mélanger les deux. Donc, avec qui ils sont, avec qui ils passent leur soirée, avec qui ils sortent, avec qui ils sortent pas, ça ne regarde que c'est pas partie de leur carrière. Donc, c'est aussi être vigilant là-dessus pour ne pas tout mélanger.
Bah ouais. Je reviens sur le côté usage. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu allergiques au réseau ou ils savent pas trouver les bons mots, alors sans les faire passer pour des idiots parce que ils ne le sont pas. Mais qu'est-ce qui justifie pour ce genre de coureur de recourir à tes services?
Voilà, ils sont pas allergiques au réseau parce que c'est des consommateurs. Ils sont...
Oui, mais entre consommateurs et acteurs, il y a quand même plusieurs marches.
Ils sont spectateurs. Mais voilà, je pense que c'est souvent, aussi un grand tour, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il y a encore plus sur le tour, mais que ce soit sur le Giro, la Vuelta, les coureurs n'ont pas forcément du temps à eux. Tout est vraiment timé pendant la journée, pour un départ d'étape à 13h, les mecs peuvent être partis de l'hôtel à 9h. Donc le soir, il n'y a pas forcément une disponibilité mentale pour arriver à faire un poste. Des fois, il manque un peu d'idées. Donc mon rôle, c'est d'avoir un peu de recul sur ce qu'ils ont pu faire pendant la journée en disant ça serait peut-être pas mal qu'on en parle. Mais encore une fois, c'est peut-être mal, mais il n'y a pas de plan de com.
Je t'ai pas dit que c'était mal, hein, au contraire.
Le but, c'est d'être vigilant et d'être présent quand il faut être présent, voilà. Mais généralement là aussi ça se passe bien, je leur montrer que communiquer quand on gagne, quand on lève les bras, c'est facile, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, il faut savoir aussi communiquer quand ça va moins bien, quand il y a eu un coup de mou, quand il y a eu un abandon, et c'est humain, c'est pas grave, c'est que du vélo. C'est aussi dans ces moments-là que j'interviens. C'est pas les moments les plus rigolos quand j'ai un coureur qui a abandonné ou qui est passé à côté de son objectif. Mais on en discute, on dédramatise la chose et derrière, on communique sur les réseaux sociaux.
Bah, surtout que la vie d'un coureur, enfin un coureur sur route pro UCI, c'est essentiellement fait de, enfin, pas d'échecs ou de défaites, mais les victoires dans une saison où bah, il y en a finalement très peu par rapport aux moments difficiles.
Ah oui, en foot, en sport collectif, on gagne, on perd, on fait match nul. C'est, en vélo, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est de vraiment d'être présent. C'est trop facile de communiquer quand ça va bien. Donc c'est de pouvoir mettre en avant les moments un peu plus difficiles, les expliquer. Et puis encore une fois, c'est que du vélo. Ils savent l'investissement qu'ils ont mis dans leur métier et ce qu'on leur dit c'est qu'il n'y a personne qui est là pour leur donner des leçons ou quoi que ce soit.
Quand tu dis c'est aussi très important pour l'après-carrière, on n'en parle pas beaucoup et même c'est un sujet un petit peu tabou parfois chez les coureurs et dans l'environnement, même si on en parle de plus en plus. Quelle est l'importance justement d'avoir une grosse caisse de résonance pour un athlète, quel qu'il soit, quelle que soit la discipline, via les réseaux sociaux justement ?
Bah, leur montrer que les réseaux sociaux, c'est pendant leur carrière, mais c'est aussi après. Si un athlète a bien géré ses réseaux sociaux, qui se retrouve à la fin de sa carrière avec 100, 200, 300, 500 000 followers, ça a une valeur marchande tout ça.
Bah oui.
Donc c'est important de ne pas passer à côté et de saisir les opportunités de carrière qui permettent d'avoir des gros coups d'accélérateur et de faire grandir cette communauté.
Je suppose que comme moi, tu as observé un petit peu comment Jaja comment Jaja s'est approprié les réseaux sociaux, on va dire, alors qu'il était un petit peu absent et il vivait sur sa légende, et depuis 3-4 ans, on voit qu'il est de plus en plus présent.
Je veux pas dire de bêtises parce que c'est quelqu'un que je croise de temps en temps sur les courses et que je connais pas personnellement, mais je crois que c'est pas lui qui les gère.
Ah bah non, c'est pour ça que je te disais comment dire ça gentiment. C'est pas lui, mais n'empêche que ça illustre parfaitement ce que tu viens de dire, de capitaliser sur une image en plus hyper sympathique pour lui, parce qu'en plus il est super sympa. Et d'utiliser ça justement pour monétiser bah, au moins ce qui a été fait pendant 15 ans sur un vélo.
Oui, c'est
quand même super utile.
Donc lui, il fait partie de cette génération qui n'a pas connu les réseaux sociaux pendant sa carrière. Donc maintenant qu'il a une exposition, il a une fenêtre médiatique chaque année sur le tour. Parce que le tour, c'est 50% de la saison, voire plus, et puis le reste, il a tout à fait raison d'en profiter. Et puis même, il a des partenaires, je ne veux pas dire que c'est encore un sportif de haut niveau, mais pas loin quand même, parce qu'il a quand même un niveau de performance très élevé. Ça permet aussi d'avoir une autre discussion avec ses partenaires.
Oui, parce que finalement, de cette époque-là, il n'y a pas non plus moult coureurs qui sont encore actifs et qui sont encore, entre guillemets, affûtés. Il y en a beaucoup qui ont plutôt plus ou moins arrêté et qui font tout autre chose. Hein. Je pense à Christophe Moreau, il est dans la vidéo, je crois, vers Besançon. Ou je ne sais où, il a une boîte de communication vidéo et ils font tout autre chose. Donc, des mecs comme ça, il n'y en a pas non plus beaucoup.
Performance sur le vélo à ce niveau-là et qui ont une présence digitale comme ça, je vois personne. J'ai pas d'exemple concret. Ouais.
Bon, après, il y a toujours l'exemple de Erwan Manteour qui est devenu super actif à la télé après sa carrière, mais ça, c'est un petit peu différent.
Oui, c'est un autre domaine.
Ouais. Oui, c'est un autre, mais n'empêche que, par contre, j'admire vraiment sa démarche et tout ce qu'il a réalisé depuis. Parce qu'autant comme coureur, bon, il y avait un moteur, mais on peut pas dire que ça a été qu'il y a eu un énorme palmarès. Mais par contre, ce qu'il a réalisé après avec FitNext, c'est vraiment super, super bien, je trouve. Avec comment il s'appelle, l'ex-champion de France de la caisse d'épargne, Florent Brard, ouais, c'est vraiment bien ce qu'ils ont réalisé ensemble, c'est vraiment super. Avec Jordan Sarrou, tu fais quoi?
On envoie des newsletters, il a une base de données,
ouais.
On envoie qui aux partenaires, un peu de la presse locale, c'est voilà, de donner des news de Jordan. On a en plus je me suis rapproché de Jordan assez rapidement il y a longtemps quand il était cadet, parce que moi j'étais journaliste VTT et j'ai vu débarquer un gamin qui avait beaucoup de talent et qui était originaire de 40 km à côté de chez moi en Haute-Loire. Donc voilà, j'ai toujours eu une une affection particulière pour ce mec-là. Et voilà, les choses sont assez simples. Pareil, je connais son calendrier et régulièrement, voilà, on essaie d'envoyer au moins une newsletter par mois pour savoir où il en est. Sur les réseaux sociaux, il fait ça très bien. Et je suis administrateur de sa page Facebook, mais je suis jamais intervenu dessus. C'est vraiment, il sait au cas où, s'il est coincé, si jamais il a un problème, je peux lui donner un coup de main, mais j'interviens pas du tout sur ses réseaux sociaux.
J'ai eu cette discussion avec quelqu'un l'année dernière. Quel est encore l'intérêt d'avoir une newsletter justement à l'heure de Facebook et Instagram, alors que la newsletter, c'est quand même un vestige pré-réseaux sociaux finalement, parce qu'il y a plein de business aujourd'hui qui sont nés d'une newsletter. Quel est l'intérêt encore aujourd'hui d'avoir une newsletter, sachant que tous les correspondants, les contacts de presse locale ou partenaires de Jordan ou n'importe quel athlète le suivent de toute façon sur les réseaux sociaux et l'actualité est la même? Et quel est l'intérêt d'avoir une newsletter?
Même si ça peut paraître fou, encore toute la terre entière n'est pas sur les réseaux sociaux. Toute la terre entière n'est pas.
Oui, mais les partenaires et la presse locale se doit de l'être. Un journaliste ou un partenaire qui ne l'est pas, c'est une faute professionnelle.
Par expérience, sur un autre domaine, j'ai bien vu souvent des newsletters. Moi, j'en envoie 120 à l'année sur l'ensemble de mon boulot. J'ai bien vu souvent des copier-coller des newsletters dans la presse locale, régionale, voire nationale. Et je pense que c'est parce que c'est arrivé par newsletter directement sur le mail. Je suis pas sûr que ce serait le même effet si c'était tout sur les réseaux sociaux.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une défiance, peut-être? Une méfiance, plutôt?
De toute façon, le newsletter, par définition, il y a un peu de contenu. Les gens ne vont pas sur Instagram pour du contenu, quoi. Ça, c'est une certitude. Les gens se vont sur Instagram parce que c'est le monde merveilleux d'Instagram. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Mais idem sur un post Facebook, à partir du moment où il faut cliquer sur lire la suite, il y a beaucoup de gens que ça fatigue et les gens vont pas.
Le taux d'ouverture d'une newsletter, c'est pas magique non plus.
Hein. Ouais, je suis moins d'accord. Enfin, en tout cas, sur mes domaines d'activité.
Ce qui veut dire en conclusion qu'il vaut mieux multiplier les canaux pour être sûr d'atteindre la cible.
Voilà, un chef d'entreprise qui va sponsoriser Jordan, il aura peut-être pas forcément le temps d'aller sur Instagram ou d'aller sur Facebook. Par contre, si il voit qu'il a un mail de Jordan, il va l'ouvrir.
À condition qu'il n'arrive pas dans les spams.
Ouais, ça, c'est un autre débat, ça.
Bon, alors, tu fais du vélo un peu ?
Je fais un peu de vélo.
Ça t'arrive. Tu fais encore du VTT ou pas?
Pas du tout. Alors c'est.
Putain, c'est marrant ça. Récemment, j'ai fait un épisode avec Jean-Christophe Savignoni et il m'a dit pareil. Ça fait 20 ans que j'ai pas touché un VTT.
Non, j'ai plus de VTT et très sincèrement, alors c'est peut-être paradoxal, mais si demain j'avais un VTT, je me remettais au VTT, je me remettrais au vélo électrique. J'irais faire du VTT en vélo électrique.
Bah pourquoi pas, c'est cool le VTT électrique. Mis à part pour nos amis congolais qui ouvrent les mines à ciel ouvert, mais sinon c'est cool.
J'ai pas envie de faire du ailleurs. Si j'en ai eu un pour un VTT, un vélo urbain, et c'était top parce que à l'époque où j'habitais à Lyon, j'allais plus vite que les bus, que les trams, que les métros, que la voiture, on n'en parle même pas.
Bah oui.
Mais oui, si demain je me remettais au VTT, ce serait un vélo électrique, plus pour dire, au lieu de faire 25 bornes, je pourrais en faire 55 et aller un peu plus loin, tout en ayant, en faisant un peu d'effort et en ayant un côté un peu plus ludique, quoi.
Ouais.
Mais en fait, la longue distance, parce que c'est ça, j'imagine, dont on va parler.
On y vient doucement.
J'ai attaqué il y a 3 ans, en 2017. En fait, je cours aussi un petit peu à modeste niveau et j'avais vu l'opération d'ASICS, Beat the Sun, ça s'appelait, qui consistait à constituer une équipe qui permet. Le challenge, c'était de faire le tour du Mont Blanc entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Mmh. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, même si voilà, c'était une opération commerciale, une opération de communication, mais bref. Et il y a 3 ans, j'ai embarqué un pote avec moi, on est parti de Lyon à 5h45 du matin pour aller en direction du massif du Pilat, s'arrêter au Puy-en-Velay en Haute-Loire, manger chez mes parents, remonter par Saint-Étienne et arriver à Lyon dans la journée, ce qui faisait 310 km. Donc déjà, c'était un peu l'aventure d'une vie, avec une superbe fringale dans un col au bout de 80 km. Tu pars pour faire 310 bandes, t'es en fringale au bout de 80, tu dis c'était...
ça fait amateur quand même, hein.
C'était peut-être pas l'idée du siècle. Et c'est là que j'ai quand même compris le fonctionnement assez basique du corps, hein. Quand il n'y a pas d'essence, et ben ça avance plus, donc il suffit de remettre de l'essence. Et on l'a fini, on s'est bien fait plaisir, on s'est pas mis une cartouche monumentale non plus. Donc c'était fin juin, et en fait bah, l'année d'après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc je suis pas breton à me balader au fin fond du monde avec mon drapeau de la Bretagne, mais par contre je suis quand même assez attaché à mes racines. Et la deuxième année, j'ai embarqué un autre copain pour faire un tour de la Haute-Loire. Sur une seule journée, pareil, avec le même esprit, partir lever du soleil et rentrer avant la nuit. Donc là, c'était un peu plus dur. On a fait 335 km, on avait quasiment 6000 mètres de dénivelé.
Mmh. Oui, c'est musclé la Haute-Loire, hein, quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand... bah, déjà, tu dis le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, sauf erreur de ma part, c'est tout proche de la source de la Loire, n'est-ce pas? Le Mont-Gerville, c'est tout à côté.
C'est à 40 km, ouais.
Ouais. Et c'est aussi le départ de du chemin Stevenson.
Du chemin de Stevenson, du chemin de Saint-Jacques, ouais.
Saint-Jacques, parce qu'on a fait un épisode récemment sur Saint-Jacques. C'est quoi le lien avec Saint-Jacques, rappelle-moi?
Bah, c'est un des départs de Saint-Jacques de Compostelle.
Ah ouais? D'accord.
C'est un des principaux départs. Je crois que c'est plusieurs dizaines. Enfin, c'est pas 15 ou 20 000 personnes qui partent chaque année de Saint-Jacques.
Ouais. D'accord. Donc, et Stevenson, ça te dirait pas de le faire, mais justement en tout terrain où est bon, bah du coup électrique pour toi.
Je me demande si ça passe en gravel ou pas. Si ça passe en gravel, ça me plairait bien de le faire en gravel peut-être.
Bah, il faudrait que je regarde parce que j'ai le petit bouquin de rando pédestre. Gravel, je doute parce que ça m'a l'air quand même assez caillouteux, si on peut dire. Je pense que l'option VTT serait plus raisonnable, je pense.
Mais oui, ça fait. Je pense que c'est un bel itinéraire que je connais pas. Mmh. Mais
bah, ça peut être un truc à organiser ensemble parce que j'y pense énormément pour l'automne. Donc l'aller-retour sur 3 jours.
Il y a un trail qui est organisé chaque année depuis quelques temps là sur cet itinéraire.
Ouais.
Et sur le tour de la Haute-Loire, je pourrais pas dire le moment le plus difficile, mais au bout de 50 bornes, on avait déjà 1000 mètres de dénivelé en fait.
Bah oui.
C'est-à-dire que c'est jamais vraiment plat.
Et le revêtement est un peu rugueux en plus.
Très rugueux. En 2018, AG2R était venu en stage au Chambon-sur-Lignon pour préparer le tour. Et oui, il y avait des coureurs qui avaient trouvé ça très dur, quoi. Mmh. Qui avaient trouvé ça très, très dur. Donc le tour de la Haute-Loire a été réglé dans la journée. Mes parents nous avaient fait un peu d'assistance pour qu'on puisse avoir des repas un peu solides. Et puis voilà, je suis pas dans la surenchère. On s'est dit bon, bah maintenant que le truc est fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et je passe beaucoup de temps. J'ai découvert il y a quelques mois, enfin ça date un peu maintenant, le planificateur d'itinéraire sur Strava. Et je passe beaucoup de temps à tracer des parcours sur Strava.
On en parle pas beaucoup de celui-là. On parle beaucoup de commute, mais je préfère celui de Strava.
Et en plus là maintenant il a évolué, il est encore plus précis,
ouais.
Parce que j'ai eu des fois des surprises en traçant sur Strava. Et la première fois que j'ai tracé un parcours sur Strava, j'ai fait 265 bornes tout seul et avec très peu de points, et je me suis rendu compte qu'il m'emmenait par défaut par des petites routes de cyclistes, donc c'était plutôt agréable. Et donc j'ai tracé, j'ai cherché quoi faire. Au début, j'ai fait un tour, j'ai fait une boucle en prenant les 4 départements de l'Auvergne. Et puis à un moment, à regret, je me suis dit, ben, l'Auvergne en tant que telle n'existe plus. Donc,
Et oui.
Donc, je me suis mis à pencher sur une traversée Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça a donné lieu à beaucoup de parcours différents, mais la première version finale, si on peut dire, faisait 610 km. Et on a décidé de se lancer là-dessus en juillet 2019. Le 1er juillet 2019. Et on s'est bien planté. On l'a bien cherché. Donc,
ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous vous êtes planté à quel niveau?
Ça veut dire qu'on était deux, j'avais embarqué un pote aussi con que moi là-dedans, qui a une grosse expérience de la longue distance à pied, parce qu'il avait bouclé un temps très très honorable à la Diagonale des Fous. Et il se trouve qu'il est vacataire comme moi pour AG2R. Donc on avait passé tout le mois de mai 2019 sur le Giro, ce qui veut dire 3 semaines et demie avec à peu près 0 km de vélo.
Ouais.
Donc on avait repris le vélo en rentrant fin mai début juin. On avait roulé mais pas suffisamment et le boulot a fait que juste avant notre trip, c'est-à-dire du mercredi au dimanche soir, on était tous les deux au championnat de France de cyclisme sur route à côté de Nantes. Et la veille à 19h, on était encore à Nantes et on est rentré en voiture jusqu'à Lyon et Grenoble, jusqu'à 1h du matin. Donc, clairement, on a pris le départ le lundi après-midi à 17h, en étant tous les deux cramés. Voilà, une gestion bof-bof, on s'est trop arrêté. La traversée de la Haute-Loire avait été assez chaotique, parce que très dur. Et au final, on avait stoppé... On avait stoppé à 450 km à peu près sur les rives du lac du Bourget pour plein de raisons, parce que Antoine était, mon pote était râpé. Je voyais bien que si on continuait, on allait se renquiller une nuit. Moi, sans trouver d'excuses, le lendemain à 7h du matin, j'étais dans le train pour repartir sur une Coupe du Monde de VTT. Donc on a arrêté là. Et en fait, une fois récupéré, j'ai dit, mais on a abordé ça comme des cons. C'est possible, quoi. C'est vraiment possible.
Donc, un échec retentissant. Point par point, vous avez retenu quoi comme leçon, finalement, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, finalement? Point par point, vous avez fait quelles erreurs et comment vous les avez résolues?
On a fait déjà beaucoup trop de pauses. Donc, cette année, on y reviendra après, mais on avait des points fixes vraiment déterminés à l'avance sur lesquels on s'arrêtait 30 minutes maxi. Par contre, entre-temps, on ne s'arrêtait pas, on roulait, on avait un camion d'assistance, on avait même les bidons, ils nous dépassaient les bidons par la fenêtre. Voilà, donc là-dessus, on était traités comme des rois. Je pense qu'on est parti peut-être un peu vite. Peut-être un peu tard, parce qu'on a abordé la nuit, on a abordé le dur au début de la nuit, et puis surtout en n'ayant pas assez roulé avant. Enfin, je vois, j'ai pas non plus des centaines de milliers de kilomètres, mais l'année dernière j'ai fait 8400 kilomètres sur l'année. Là on est début juillet, j'en suis à 6005, quoi.
Et en plus, tu revenais d'un week-end de championnat de France qui dit grosse chaleur. Il fait toujours très chaud sur le week-end des France.
Ouais,
et
non,
puis
mais
nerveusement, c'est épuisant aussi. Trois jours de folie aussi, quand même.
C'est toujours du stress. Effectivement, quand je suis rentré à Lyon, c'était canicule. Moi, j'ai dormi dans mon salon parce que dans ma chambre, il faisait beaucoup trop chaud avec les fenêtres ouvertes. Enfin, on a passé une nuit. Enfin, dès le départ, c'était plié, en fait.
Ouais.
Clairement. Donc là, bah aussi. Grâce à cause du Covid, du confinement et de l'arrêt de la saison vélo, j'ai pu m'organiser beaucoup mieux et d'arriver dans d'autres dispositions, quoi.
Donc, l'édition 2020, comment s'est-elle déroulée?
Avec un autre coéquipier, non pas que Antoine était fâché, mais il n'avait pas envie de revenir.
Il n'était pas fâché, mais il n'empêche qu'il était un peu bougon. on va dire.
Il a dit merci, mais sans moi. Non. Il était content qu'on le refasse, mais voilà, lui, c'est pas fait plaisir, quoi. Il avait fait une pause pendant la nuit. Bref. D'ailleurs, je refais un trip bientôt avec lui. Et je suis parti avec quelqu'un qui est originaire de la Haute-Loire comme moi, qui s'appelle Laurent Charbonnier, qui a une grosse, avec qui j'avais fait le tour de la Haute-Loire, et qui a une grosse expérience des épreuves longue distance, type 24 heures, flèche vélo, sio. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des épreuves cyclo, ils sont 5, je crois. Ils roulent pendant 24 heures. Donc, voilà, sur toute la logistique, ça a été confié à Laurent. Il a retracé le parcours pour la planir un peu autant que faire se peut. Et c'est lui qui a récupéré deux assistants qui étaient des jeunes retraités passionnés de vélo et qui ont été exceptionnels. On a décalé l'heure de départ pour un départ à 11h du matin. Et vraiment, Laurent tombait le plateau, je tombais le plateau. Laurent mangeait, je mangeais. Il me disait, j'écoutais quoi. Et la preuve que j'ai eu raison, parce qu'il est en partie responsable du fait qu'on a été au bout, quoi. Et en plus les conditions météo avaient été meilleures. Moi j'avais fait appel aussi à un météorologue que je connais pour pouvoir avoir un peu des bonnes tendances. Et clairement par rapport à l'année d'avant, sur les 175 premiers kilomètres, sur le GPS, j'avais un temps de pause de 40 secondes. Donc, au bout de 175 bornes, on avait fait 6h30 sans s'arrêter une seule fois. Donc, on était parti sur d'autres bases, quoi.
Donc là, rétrospectivement, à quoi tu attribues point par point le succès de cette entreprise, finalement?
Je pense que je me suis mis quand même une bonne dose la semaine d'avant tout seul. Parce que j'avais besoin, je savais que je suis pas du tout entraîneur et je suis très loin d'avoir quelques compétences, mais le seul truc de base que je sais, c'est que quand on se met une énorme charge à l'entraînement suivie d'une période de repos, généralement c'est plutôt efficace. Donc la semaine d'avant, je suis parti 4 jours en vélo tout seul avec mes sacoches, une sacoche sous le guidon, une sacoche sous la selle. Et je suis parti à Lyon, je suis revenu à Lyon, j'avais imaginé un tour qui me permettrait de ne pas avoir d'hôtel. En fait, j'avais imaginé ce tour à la fin du confinement, ne sachant pas quand les hôtels allaient rouvrir. Et ce tour-là me permettait de dormir, de partir de Lyon, de dormir le premier soir chez mes parents, de dormir le deuxième soir chez Pierre Latour à Romans-sur-Isère, le troisième soir chez une amie, chez un couple d'amis au-dessus de Grenoble, dans le massif de Belledonne. Donc j'étais tranquille sur l'hôtel et j'ai fait 690 bornes en 4 jours avec 10 000 mètres de dénivelé, donc des conditions bien dégueulasses pour un mois de juin. Et je pense que ça m'a vraiment fait du bien, clairement. Voilà, j'ai fait 28 heures de vélo en 4 jours. Je suis pas sûr que ça m'était déjà arrivé en fait.
Et après, sur la gestion de ton allure, bon, tu l'as dit, vous aviez un camion, donc sur la gestion de l'hydratation et de l'alimentation, c'était beaucoup plus facile, mais gestion de l'allure, gestion des temps de repos.
Laurent avait déterminé, lui, les pauses, il s'était calé, en fait, sur ce qu'il faisait habituellement sur les flèches vélocio. Donc, je savais qu'on allait avoir une pause, on va dire, fin d'après-midi, une autre au début de la nuit, vers 22-23 heures. On en avait calé une autre au milieu de la nuit, qui a peut-être été la plus difficile parce qu'on s'est arrêté à un endroit où il caillait grave. Moi, j'étais avec la veste. Si j'avais pu mettre le bonnet, j'aurais mis le bonnet. Et une autre pause au petit matin vers 8-9 heures. Par contre, on a eu une gestion avec Laurent qui n'était pas du tout... On n'a pas appréhendé les choses de la même manière, mais je pense que c'est un peu le jeu. Clairement, Laurent a été bien pendant 175 bornes. Et derrière, il a eu des grosses douleurs d'estomac. Moi, je l'ai vu, je me suis dit, il va bâcher. Il a jamais bâché. Il a jamais été bien après. Donc, ça veut dire que du kilomètre 175 jusqu'au kilomètre 585, il n'a jamais été bien. Il a fait 400 kilomètres en se battant comme un fou et il a été au bout. Mais clairement, moi, je me suis demandé si j'allais pas être tout seul au bout de 175. Bon. Et moi, contrairement à lui, encore aujourd'hui, je l'explique pas. J'ai été besogneux pendant 6h30. Et quand je suis reparti de la pause, c'était complètement différent. Allô, allô.
Mais je t'écoute oui, parce ah, qu'il oui, y a oui, parfois pardon. Certaines choses qui sont inexplicables.
Et oui, oui, j'ai même plein de fois, dans ma tête, plein de fois, je me suis dit, mais faut que je me calme parce que ça va me péter à la gueule, clairement. j'ai eu un. À partir du 175e, j'ai eu un coup de moins bien dans la descente vers Chambéry vers 4h du matin parce que je m'endormais sur le vélo. Et ces signes-là, je les ai connus, donc je savais ce qui était en train de m'arriver. Je me suis arrêté, j'y ai remédié tout de suite. Après, ça allait mieux.
Alors, on n'a pas dormi. Tu y as remédié en faisant quoi?
Alors, j'avais tenté une expérience. C'était pas une grande expérience, mais j'avais quand même tenté. Je suis un consommateur de café, de 30 cafés par semaine, 3 semaines, un mois avant. Je suis passé à 2 ou à 3. Par semaine, donc je buvais plus de café et j'avais des gels de caféine et à 4h du matin je me suis arrêté, j'ai mangé un peu, j'ai pris un gel de caféine et c'était reparti jusqu'à 9h du matin.
Tu n'as pas dormi pendant une semaine après?
Non, après ça allait parce que quand on dort pas d'un, ouais, je suis pas un gros dormeur, mais par contre ouais, le soir d'après j'ai dormi 7 heures, j'ai pas beaucoup dormi mais j'ai dormi. Donc oui, la privation de café 3-4 semaines avant et dessus un gel de caféine, ça m'a fait du bien.
Je reviens sur la planification des pauses. Est-ce que savoir à l'avance que tu allais t'endroit, que tu allais avoir telles échéances pour t'arrêter, est-ce que mentalement ça aide à tenir et à fait structurer son bloc d'effort en se disant qu'on a oui. des échéances précises à atteindre.
Oui, oui, oui. Moi, je suis un modeste trailer. J'ai fait un peu de longue distance, vraiment, pas jamais plus de 80 km, mais ce que j'ai toujours fait en trail, avec juste l'ambition, c'était d'aller au bout et de finir ma course. J'ai toujours découpé les courses, une course de comme le Festival des Templiers qui fait 78 bornes. Je partais pour 23 km parce que le ravito était au premier ravito était au bout de 23 km. Mmh. Et là, j'ai un peu fonctionné pareil, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre un énorme morceau dans la tronche en disant on part pour 580 bornes, je partais pour 175 bornes. Après, une fois que ça c'était fini, je repartais pour X kilomètres ou X heures. Voilà. C'était bout par bout et au final le but c'était de tout compléter. Et puis voilà, il y avait aussi le petit challenge de dire bah on fait notre but c'était de faire les 12 départements. Et pendant 22 heures de vélo, je dis bah là on a fait un département, deux départements, trois départements. C'était ce qui m'a tenu pendant 22 heures.
Ok. Et maintenant, là le prochain challenge, si on peut dire, c'est quoi, c'est quand?
Bah déjà j'étais en remettant un peu les choses dans le contexte, hein. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font des très très longues distances. Il y a des épreuves de 2000, 3000 km. Il y a beaucoup plus dur, beaucoup plus long. La question que je me pose aujourd'hui, là où j'aimerais aller, c'est refaire long, mais en totale autonomie. Parce que voilà, c'est presque facile entre guillemets quand on sait que bah la pause on a tout dans le camion, bah je veux ci, je veux ça, donc c'est quand même le luxe, donc essayer de se mettre un peu plus en danger entre guillemets sur des distances de 500-600 km en autonomie, en ayant tout sur nous et puis en étant soumis aux boulangeries qu'on peut trouver sur la route. Des idées pour l'instant, il y a rien. Alors l'idée proche, c'est que là dans 10 jours on part faire Annecy-Nice en 3 jours avec un bout de gravel, donc il y aura 460 km et 16 800 mètres de dénivelé en 3 jours. Mais là, en partant le matin très tôt, en roulant jusqu'à ce qui est de la lumière et en dormant le soir dans du dur, on va dire. Mais des idées longue distance sur route, ouais, il y en a plein, il y en a une ou deux qui me trottent dans la tête.
Comme quoi, bah vas-y, là, tu peux pas dire oui, je vais j'ai ça comme idée et puis rien dire derrière.
C'est plus, encore une fois, c'est plus, on prend 5 minutes, on trace sur ce travail, on se dit waouh, ça doit être top. Toujours avec cette thématique régionale Auvergne-Rhône-Alpes, je me suis amusé à cette fois à relier toutes les préfectures. Toutes les préfectures, donc les 12 préfectures de la région. Ce qui fait une aventure de 1200 km. Je sais plus le dénivelé, mais c'est indécent. Donc ça me plairait bien. Sous quelle forme, je n'en sais rien. En tout cas, ça me plairait bien. Ma difficulté, c'est pas grave, c'est que je suis quand même soumis aux saisons de vélo, donc je peux pas faire ça n'importe quand, n'importe quel moment.
Ouais.
Et via les réseaux sociaux, parce que c'est ça, ce côté aussi magique, les réseaux sociaux, c'est que j'ai échangé avec plein de gens. Pendant le trip de 4 jours et puis pendant le retour, j'étais même surpris parce que pour moi, voilà, je fais que du vélo, quoi, donc c'était cool. J'ai vraiment reçu plein de messages super bienveillants et c'était top. Et la presse avait aussi, la presse locale et autres, a beaucoup parlé de ce qu'on avait fait, donc il y a eu pas mal de réactions et c'était chouette. Et je suis tombé sur un idiot, enfin aussi idiot que moi, qui m'a proposé. De refaire le parcours du Tour de France 1903 qui comportait 6 étapes en fait. C'était Lyon, Paris, le sud de Paris, Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Nantes et Nantes-Paris. Eux à l'époque l'avaient fait avec plusieurs jours de pause entre les deux. Et pourquoi pas tenter, alors c'est peut-être une douce utopie, j'en sais rien, pour l'instant on n'en est pas là. Pourquoi pas tenter de il y a 6 étapes, essayer de les faire en 7 jours en fait.
Ah ouais.
Donc il n'y a pas de difficulté, entre guillemets, il n'y a pas de difficulté, la seule difficulté c'est le col de la République qui était le premier col monté par le Tour de France du coup en 1903 qui est au-dessus de Saint-Étienne. Qui permet de basculer de Saint-Étienne vers l'Ardèche et la vallée du Rhône. Mais ouais, c'est une aventure de 2400 km quand même. Donc, mais voilà, après des idées, j'en ai plein.
Oui, les idées, ça manque jamais. Après, c'est le temps et l'envie de les réaliser qui peut bloquer un peu.
Je pourrais pas cette année parce que j'ai décidé de faire autre chose, mais un des formats, la race au Cross France, la race au Cross France m'intéresse beaucoup. Je suis pas sûr d'avoir encore le foncier pour partir sur 2600 km, mais je m'étais imaginé un temps de faire le 500 km. Ce sera pas pour cette année. J'avoue que je regarde ça de loin via les réseaux sociaux, mais les Biking Man ont l'air juste oufissime. Je pense que Biking Mind de Corse, je connais un petit peu. J'ai eu la chance d'aller quelques années en Corse en vacances. Je pense que les parcours doivent être démentiels. Et j'ai cru comprendre qu'ils étaient en train de travailler sur un Biking Mind France qui serait beaucoup plus long. Mais là aussi, qui va passer dans une bonne partie de la Provence.
Oui, je crois qu'on a vu les mêmes photos la semaine dernière.
Et ça a l'air juste dingue, quoi. Voilà, c'est plus ça en fait qui m'attire, c'est de dire. On va rouler dans des trucs où on va passer X heures avec les yeux grands ouverts et en prenant plein la tête. C'est ça l'intérêt du truc, quoi.
Je vais quand même me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que même si j'aime beaucoup Axel, quel est l'intérêt d'aller se taper une épreuve en Corse ou en Provence, sachant que tu habites à mi-chemin entre Lyon et Toulon, on va dire, pour ceux qui ne maîtrisent pas exactement hier les Palmiers, on va citer Toulon, qui est juste à côté. Quel est l'intérêt d'aller se taper une épreuve à côté de chez soi, alors que finalement, tu peux aller rouler en Provence quand tu veux? Ou encore.
Qu'est-ce que je veux dire? Je suis pas
réfléchis bien.
Non, mais je m'interroge en fait. Je fais du vélo pour mon plaisir. Je suis pas un champion. Je cherche pas à l'être et je sais où est ma place. Mais je m'interroge quand même parce que suite à l'oratoire, sur ce que je suis capable de faire. Alors oui, là, il y a sur ce que je suis capable de faire sur la longue distance, en étant en autonomie complète. Ouais, ça m'interroge sur où est-ce que je pourrais me situer. Peut-être que je prendrais une énorme fessée et que j'irai pas au bout. Mais ouais, j'ai envie de voir. Peut-être que je ferai un biking man ou une raf et je me dirais bon non, en fait ça me gonfle et c'est pas mon truc, je préfère partir de mon côté. Mais par curiosité, j'étais un petit coureur local. Enfin voilà, dès que comme beaucoup de a priori c'est quand même très masculin. Dès qu'on roule, on a toujours envie de se mettre un peu la paillasse. Voilà, l'idée c'est d'aller se mettre un peu la paillasse sans longue distance, mais en se mesurant peut-être à d'autres. Enfin, déjà, on se mesure à soi.
Et, avant tout, oui.
Voilà. C'est de voir ce que je suis capable de faire sur des formats comme ça où je suis en autonomie complète pendant un jour, deux jours, trois jours. Quoi.
D'accord. Bon, bah écoute, tu verras bien. Je reviens sur le truc dont tu me parlais avant, le Annecy-Nice. Tu me disais qu'il y avait une section gravel relativement longue. De 160 km, c'est ça ?
On a en tout sur 460, on a 140 bandes de gravel.
Ça implique quoi au niveau matériel ? Parce que ça veut dire qu'il y a un ratio route-chemin carrément en faveur de la route, ce qui veut dire que tu peux ce qui signifie que tu ne peux pas prendre un pur gravel en termes de pneus. Comment ça va se passer ? Et tu peux pas non plus te pointer dans les chemins avec des pneus de 28. Ça dépend des chemins en même temps, mais quand même.
Là, très clairement, encore une fois, Scott a joué le jeu avec nous, comme ils le font depuis 3 ans sur mes aventures. Là, ils ont joué le jeu via leur deuxième marque Bergamo. Là, je suis content d'y aller parce que je me dis encore une fois qu'on va en prendre plein les yeux, on va faire de la haute montagne dans des endroits un peu sauvages. Mais j'ai clairement l'impression d'être à l'arrache, mais alors à un niveau assez élevé. Pour dire la vérité, on est mercredi, on part dans une semaine, ouais. J'ai le vélo dans l'appart et j'ai pas encore roulé avec.
Bravo. Donc ça veut dire que t'as pas l'intention d'aller au bout en fait, tu vas t'arrêter à Aix-les-Bains avec une tendinite à chaque jambe.
Je vais aller rouler là tout à l'heure, je vais aller faire un tour ce week-end, je vais essayer d'aller faire 2 fois 2 heures histoire de prendre le vélo en main. Ouais. On a ce trip fera l'objet d'un reportage dans la presse magazine. Donc on aura un photographe qui sera en camion avec nous pour nous suivre. Donc toutes les affaires, on n'aura pas de grosses sacoches quoi que ce soit. On sera quand même en mode plutôt light. Mais oui, je vais partir avec les pneus à crampons et je pense que je vais rouler pas mal avec les pneus à crampons.
Alors, voir si j'en ai une deuxième camionnette. Si t'as une camionnette derrière, tu prends 2 paires de roues.
Ouais, si j'emmène ma paire de route avec pour les journées, parce que je crois qu'il y a une journée complète, c'est le jeudi, le mercredi on a du gravel, jeudi on a quasiment que de la route et le vendredi on aura pas mal de gravel. Donc à voir si j'emmène une deuxième paire de roues, je vais voir, mais ouais, je suis un peu là, hein, je crois, j'avoue.
Et au niveau gravel, t'en es où ? C'est bon, j'ai une petite idée, t'es un peu à l'arrache aussi ou tu...
C'est-à-dire
en termes de matériel, de ce qui t'attend sur le terrain, même si tu viens du VTT, est-ce que c'est complètement nouveau pour toi?
J'ai une vision, peut-être que ma vision va changer après 3 jours de trip, mais pour moi le gravel c'est du chemin large, c'est peut-être très con, hein, mais quand je vois des fois où les mecs s'aventurent en gravel, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, le gravel, c'est un chemin très large où on roule en VTT, on roule en 4x4 dessus, quoi. Voilà. Donc, après, c'est du VTT.
Enfin, on pourrait en discuter longtemps, mais je suis pas entièrement d'accord avec toi.
Je pars confiant. En fait, j'ai pas mal changé d'avis sur le gravel en quelques années. Clairement.
Alors, t'es passé de quel avis à quel avis ?
Au début, à ne pas comprendre. C'est-à-dire, j'ai un peu voyagé, mais pas non plus sur le tour de la Terre. Mais effectivement, j'ai vu des pays avec des routes secondaires. J'étais pour la première fois en Nouvelle-Zélande en 2006, où j'ai vu des routes secondaires en Nouvelle-Zélande qui n'étaient pas goudronnées. Donc, je me disais, effectivement, pour ces pays-là, OK. Mais quand le phénomène gravel est apparu en France, je me dis, ouais, je vois bien, mais on roule où avec ? Et plus ça va, et plus je me dis, ah ouais, en fait, pourquoi pas? Clairement, bah là, j'ai suivi ma copine dans le Var, donc hier, proche de Toulon. Et
Oui,
là,
non, mais maintenant on peut dire hier, hein, c'est à côté, c'est bon, hein, les gens regarderont sur une carte, puis je les encourage à aller là-bas en vacances, c'est super cool.
de ce que j'ai pu voir sur la route, parce que pour l'instant, je ne fais que de la route, j'ai l'impression qu'il y a des pistes partout.
Bah,
Partout.
est-ce que tu as entendu parler du Roc d'Azur?
Non. J'ai pas 78 ans, mais j'ai connu tous les sites du Roc d'Azur.
Eh ben, y a de la piste hein, sur la gravel rock. Bon, alors évidemment, des fois c'est un peu chaotique, faut pas avoir les genoux branlants. Mais il y a de la piste quand même. Donc oui, le
Mais
massif des Morts, c'est super pisté quand même.
enfin, on est quand même à 80 km de Fréjus ici, hein. Donc là, tous les cols que j'ai fait là par là, pour la grande partie, en haut des cols, ils se prolongent quasiment tous par des pistes de gravel. L'hiver, les cyclistes ici viennent rouler beaucoup la Londe les Morts, plus la Londe que hier. C'est quand même le repère des cyclistes au mois de février.
La
Il y
Londe,
a un
ouais, c'est
col
top.
il y a un col que les cyclistes connaissent tous, s'appelle le col du Babaou. On est en haut du col du Babaou, on peut prolonger par une piste, quoi. Donc c'est ça, c'est d'ouvrir le champ des possibles en disant, bah, je vais monter le col sur la route, ou je vais le monter par les chemins et je vais le redescendre par la route. Voilà, c'est ça qui m'intéresse sur le gravel, c'est ce côté un peu exploration entre guillemets, parce que c'est pas non plus des trucs de fou, hein, mais c'est d'ouvrir le champ des possibles et d'exploiter au mieux le relief et le terrain de jeu qu'on a ici, quoi.
Alors le col du Babaou, c'est le col rêvé pour tous les cyclistes qui n'aiment pas monter, parce qu'il est roulant. Je crois me souvenir que le revêtement est nickel, le paysage est d'enfer. C'est une merveille ce col.
Non, c'est pas. Mais il y a pour l'instant, j'ai encore besoin d'explorer. Mais pour l'instant, dans un rayon de 50 km, j'ai jamais fait des chantiers. Hein. J'ai fait du dénivelé, mais c'est pas des trucs. Pour
Non.
l'instant, je sais qu'il en existe, que j'en ai pas fait encore. Mais même dans le Toulonnais, même si j'aime pas trop aller dans le Toulonnais, il y a des bosses, mais c'est pas des pourcentages démoniaques, quoi. Donc
Non, non, non,
c'est
non,
assez
non.
accessible.
Non, mais par contre, ça roule vite. J'ai vu on m'a fait passer récemment quelques activités Strava de mecs du coin. Et bah, pareil, faut quand même s'accrocher un petit peu.
Ah
Ça
oui,
roule super, super vite.
ça roule vite, et puis il y a quand même y a quand même des courses pro qui passent pas loin chaque
Bah
début de
oui.
saison. Donc ouais, clairement, la dernière fois j'ai monté un mini col derrière la Londe. J'avais l'impression que j'ai fait mon PR ce jour-là quand j'ai vu les temps sur Strava. Après, chacun son métier, hein, mais oui, il y en a qui roulent vite. Ça m'est
Ah
arrivé
ouais.
dans le col de ça m'est arrivé dans le col de Garde. Il n'y a pas si longtemps que ça, col de Garde, c'est le premier col avant d'enchaîner sur le Coudon qui est le point culminant des monts Toulonnais. J'avais l'impression de monter pas si mal que ça, et je me suis fait ouvrir en deux par un mec du coin qui roulait 3 km plus vite que moi, quoi.
Bah ouais, mais ça, les mecs du coin, ils connaissent.
Non, mais en étant là depuis 6 mois, je suis pas surpris. Moi, je roule beaucoup plus depuis que je suis ici.
Bah c'est vrai que le terrain s'y prête, c'est tellement plaisant. La Londe les Morts, puis oui, comme tu disais, c'est un repère. Moi, j'y allais en vacances avec mes parents quand j'étais jeune. C'était l'époque de Festina et on croisait tous les Festina en février. C'était super plaisant.
Je roule ici en cours depuis le 14 février.
Alors, c'est pas non plus la peine d'être vulgaire. Hein?
Non,
Voilà,
mais
merci beaucoup.
là où je faisais 1h45, entre 1h30 et 2h à Lyon, ici je fais sans peine 3h.
Bah oui. Mais quand t'as pas les pieds gelés et que tu te pèles pas les couilles, si on peut le dire vulgairement, pendant 3 heures, c'est tout de suite beaucoup plus plaisant d'aller rouler quand il fait bon.
Ah ben, je suis d'accord, et ça m'a remis d'autant plus les idées en place. Quand j'ai fait mon trip de 4 jours avant mon retour, où j'ai passé un col à 1500 mètres d'altitude, qui me permettait de quitter la Haute-Loire et de basculer sur l'Ardèche. J'ai passé un col, c'était deuxième semaine de juin, il faisait 5 degrés, voire moins, de la pluie, du brouillard et du vent, quoi. Deuxième semaine de juin, ça picote un peu.
Ouais. Donc, y a un truc dont on parle pas beaucoup, bon, qui est au cœur des conversations chez les pros, mais dont nous, modestes amateurs, on parle peu, c'est le poids. Est-ce que ton trip de 4 jours t'a permis d'éliminer un petit peu et à participer éventuellement à tes excellentes sensations sur ton voyage?
Alors, le poids du bonhomme.
Oui, bah oui, le poids du vélo. Attends, les vélos sont déjà tellement géniaux actuellement que puis tu vas gagner 400 grammes, c'est nul. Alors que sur un bonhomme, on gagne 5 kilos.
Ouais, j'essaye de... Comment dire ? Je me prive de rien, en fait. Si je suis pas gros, je suis pas affûté non plus. Je pense surtout que la charge que je me suis mis pendant 4 jours, le volume de travail, entre guillemets, le volume de vélo, m'a permis d'avoir des bonnes sensations la semaine d'après.
Ouais.
Après le poids, j'essaie de maintenir un truc à peu près correct, même si j'aimerais en perdre 5 ou 6. Mais à la rigueur, je m'en fous, quoi. Enfin, le but, c'est d'avoir un niveau qui me permette de me faire plaisir sur le vélo. Et puis, quand j'ai envie de bouffer un burger ou une pizza ou déglinguer des bières,
bah, t'y vas.
Rouler plus pour manger plus, quoi. Non, mais voilà, je suis pas professionnel, à un moment, chacun prend son plaisir là où il veut, quoi. Mmh. Moi, si demain il fallait que je fasse le job pour faire ce que je fais, non, j'ai pas envie, en fait.
Ça perdrait peut-être un petit peu de son charme aussi.
C'est pas l'idée, quoi. Il y a un soir pendant le trip de 4 jours, j'étais chez une amie, on a bien mangé, je me suis couché. Ça allait, quoi. Je suis reparti le lendemain. Non, mais faut vivre, quoi. Enfin,
bah, oui, oui.
Faut rester. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais non, là-dessus, je suis pas un modèle. Je suis pas un modèle. Donc, j'aimerais faire 10 kilos de moins, ce qui me permettrait de rouler 3 km plus vite dans les bosses. Hein, mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, quoi.
Est-ce que tu serais vraiment mieux après t'être tapé 2 mois de régime à bouffer des carottes? Et puis, est-ce que tu marcherais vraiment bien si tu perdais 10 kilos? Parce que des exemples de coureurs qui ont fait le métier et qui étaient collés à la route après avoir perdu 10 kilos, il y en a aussi.
Ah non, mais là, clairement, en ce moment, je bouffe des salades parce que il fait 1000 degrés dans le Var, donc j'ai envie que de ça. Mais non, je peux pas. J'ai pas envie de me priver, c'est pas le but. Voilà, sur le vélo, même sur le vélo, je pense que j'ai 2-3 notions d'alimentation pour arriver à remplir le moteur comme il faut, mais je pense que je serais hurlé des nutritionnistes, quoi.
Ils sont chiants, eux aussi, ils ont toujours un truc à dire, et c'est ce qu'ils proposent, c'est jamais marrant.
Donc, sur le vélo, j'adore bouffer des bonbons, quoi.
Ah, effectivement, ouais, c'est pas une bonne idée, ça. C'est quand même du sucre rapide.
Pendant 22 heures, j'ai pas bouffé des bonbons pendant 22 heures, sinon j'aurais fini raide dans un fossé. Mais non, ouais, au niveau de l'alimentation, voilà, j'ai des bases qui me permettent de. Je sais, en fait, à force de faire la longue distance, à mon modeste niveau, je sais presque à la minute près quand est-ce que ça commence à tourner, que ça commence à pas aller. Là, pour le retour, à 40 km de l'arrivée, je commençais à lutter. J'ai pas fait le malin, en fait. Il faut surtout pas faire le malin. J'ai dit au camion de s'arrêter. J'étais à l'arrière du camion. J'ai pris ce que j'avais à prendre. J'ai bouffé du salé. Je me suis empiffré pendant 5 minutes et après ça allait mieux. C'est une belle école là-dessus, je trouve, la longue distance.
Justement, c'était ma prochaine question et probablement une des dernières. Est-ce que tu regrettes d'être passé à la longue distance et qu'est-ce que tu as appris?
Pourquoi regretter?
Ben, je sais pas. Ça pourrait être un regret. Tu pourrais te dire, oh, je me suis embarqué dans un truc. Ça pourrait être un regret.
Non, c'est...
Pourquoi pas?
C'est pas du tout un regret. Je sais pas si demain, je vais pas dire jamais, je vais pas faire comme certains hommes politiques qui ont dit qu'ils reviendraient jamais en politique et l'actualité récente a montré que je vais pas dire que je serai jamais une épreuve de 2500 km, j'en sais rien, mais non, je suis content d'avoir plongé là-dedans. parce que c'est une belle école, quoi. C'est mon collègue Laurent Charbonnier, avec qui j'ai fait l'orateur, qui a 10 ans de plus que moi, disait qu'en longue distance, quand t'es bien, faut surtout pas en rajouter. C'est faut profiter de cette période-là, et quand t'es pas bien, il faut serrer les dents et attendre que ça passe. Et sans faire de psychologie à deux francs, c'est j'ai envie de dire que c'est un peu l'histoire de la vie, quoi. Voilà. C'est y a des moments où ça va. Dans ces moments-là, ça sert à rien de la ramener, d'être euphorique. Faut en profiter. Tu profites de l'instant présent. À un moment ou à un autre, ça ira pas, parce que c'est mathématique. Et ces moments-là, bah, faut les encaisser. Faut se dire que ça va passer. Et ça passe. Je crois que c'était, alors je ne veux pas lui attribuer une citation qui n'est pas à lui, mais je crois que c'était Xavier Thévenard, donc c'est le vainqueur de l'UTMB, qui disait que l'ultra, même pour un pro, c'était la gestion des défaillances. Mais pour tout le monde, en fait, que vous rouliez à 40 km/h ou à 25, c'est ça. Et c'est une belle école pour ça. C'est apprendre à être patient, et clairement, une fois que le défi est réussi, moi, mon but, c'est de pas faire trois fois la même chose, quoi. C'est d'aller voir autre chose, d'avoir de nouvelles expériences, et profiter du paysage. Et j'ai envie de rester en France pour l'instant, dans ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y a tellement de trucs à faire que je pourrais jamais tout faire. Mais c'est une belle école de la vie, de patience et voilà. Non, je ne sais pas si je fais bien passer mes idées, mais...
Eh bien, c'était parfait. Quand je ne coupe pas et quand je ne me moque pas, c'est que c'était très, très bien dit. Donc, sache-le, c'était magnifique. Tu pourras te gosser avec ça toute la fin d'après-midi. C'était très bien. Je vais te laisser. Tu as encore un truc à dire ? Vas-y.
Non, c'était en tout cas ce qui m'a plu juste sur l'orateur. Après, je vais pas raconter de fausses histoires. En termes d'empreinte carbone, on est quand même pas au top, quoi, parce qu'avec un camion qui suit et tout, je le reconnais, et c'est aussi pour ça que je vais essayer de passer sur l'autonomie. Mais ce qui m'a plu sur l'orateur, c'est qu'on était deux sur le vélo, mais en vrai on était cinq, quoi. C'est-à-dire que on a eu deux personnes que moi je connaissais quasiment pas avant, qui étaient des passionnés de vélo, qui nous ont traités mais comme des rois. Moi j'avais amené un pote à moi qui s'est occupé de la gestion du contenu. Et cette aventure, on l'a vécue en équipe et c'était chouette, quoi. C'était chouette et on peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux, mais moi j'ai aussi passé 24 heures à chaque fois qu'on faisait des pauses. Je regardais les messages que j'avais et sur WhatsApp et sur Instagram, et putain, c'était cool, quoi. C'était cool.
Ça reste de très très beaux outils, quoi qu'on en dise. Un outil, ça reste un outil, un marteau, tu peux construire une maison, tu peux tuer quelqu'un avec, et ça reste un outil. Et les réseaux, c'est pareil.
J'ai du mal avec le terme performance, parce que pour moi, voilà, on a roulé à 26 de moyenne. Si un pro refaisait notre itinéraire, il le ferait à 31 de moyenne, je pense.
Mais qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait quoi qu'il soit allé plus vite? Qu'est-ce que ça apporte à l'aventure humaine?
Moi, je vois pas comme j'ai du mal à voir ça comme une performance. Par contre, j'ai notre retour a pour moi le mérite de recevoir des messages de gens que j'avais perdu de vue pour des choses de la vie, des choses normales, comme des fois on perd des gens. Et j'ai un pote qui m'a envoyé un message, il me dit: tu sais aimer le vélo, quoi. Waouh, c'était cool. Ça, j'ai trouvé ça chouette, quoi. J'étais gêné, flatté, fier, tout à la fois. C'était trop cool, quoi. Donc voilà, non, c'était chouette.
Juste pour finir sur ce que tu disais sur l'empreinte carbone, il faut se souvenir que les courses type Race Across America, c'est pas spécialement mieux, donc il y a pas à rougir non plus, parce que il y a camion, véhicule, tout ce que tu veux pendant 4000 km ou plus, donc
faut pas
non plus se focaliser là-dessus. C'est bien de mettre un pied dans la longue distance de cette manière-là, c'est mieux que de rien faire quasiment.
Je suis pas du genre, enfin, je pense pas l'être à regarder dans la gamelle du copain. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a fait ses choses en, fait les choses en son âme et conscience. Peut-être qu'on refera un autre trip avec une assistance voiture, peut-être pas, mais effectivement, en tout cas, c'est aussi parce que j'ai fait 4 jours avec les sacoches et que même si le temps était dégueulasse, j'ai adoré quoi. J'ai adoré. Je ne suis pas senti en danger une seule fois, j'avais ce qu'il fallait sur moi, c'était top. Et puis surtout, on est dans une période où on conseille aux gens de voyager en France. Ben, tu pars avec les sacoches, dès le premier coup de pédale, t'es parti à l'aventure, quoi. Donc, moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait un Lyon, le Puy-en-Velay, pour redescendre, pour donc faire mon domicile, au domicile de mes parents, c'était une sensation au départ, c'était indescriptible. J'avais l'impression de partir à l'aventure, quoi. Disant, mais cet itinéraire-là, je le fais habituellement en voiture. Et je kiffais au bout de 100 mètres alors que j'étais en pleine ville, quoi. Donc c'est cool, le vélo, prendre le vélo, il y a toutes formes de vélo, elles se respectent toutes, et le prendre en tout cas comme un moyen de locomotion, ce qu'il est à la base, c'est bien. Et il y a tellement de choses à faire.
Bah, tu me coupes un petit peu l'herbe sous le pied, parce qu'habituellement je laisse une minute de solitude à mes invités pour leur faire dire, enfin en tout cas leur laisser dire ce qu'ils veulent, mais je pense que t'en as encore sous la soquette. Donc Fred, merci. Non, tu parles pas tant que ça. J'ai un exemple d'il y a 2-3 épisodes où le mec n'était inarrêtable.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Mais en plus, c'est un super pote, donc je peux me permettre de dire que c'est vraiment que c'est une pipelette et qu'il arrête pas de parler. Donc je peux me permettre de me moquer, sinon ça ne serait pas le cas. Mais non, rassure-toi, c'était parfait. Je te laisse pour une petite solitude. Oui.
C'est bien de parler, faut être intéressant aussi. J'espère que.
Ah non, mais il n'était pas intéressant par contre. Il parle beaucoup, mais c'est nul ce qu'il raconte.
J'espère que je l'aurais été un petit peu et donné envie de faire du vélo, quoi.
Eh ben, écoute, Fred, merci beaucoup. À très bientôt sur un événement quelconque. Je subodore que ce sera le Vélo Vert Festival. Et puis voilà.
C'est quand le Vélo Vert Festival?
C'est fin septembre. Ou alors le Rock d'Azur. Ça sera un des deux.
Ah, Rock d'Azur, quasi non, parce que moi je risque d'être au Giro, mais Vélo Vert Festival, si je suis dans la fin de septembre, j'ai rien, je crois. Donc peut-être je vais monter.
Eh ben, nous verrons bien. Merci beaucoup.
Okay. Merci à toi. Merci
de toi. Ne raccroche pas. Moi je pose mon micro et toi tu fais ta minute de solitude et tu raccroches quand tu as fait ta minute de solitude. Ok?
Ok, ça marche.
La grosse bise. Salut.
Salut.